Allô, Nakash, ne nous fais pas attendre. Tout l'état-major est là pour t'admirer, mon vieux. » L'officier Müller, responsable à Auschwitz du bâtiment de l'infirmerie, jubile. Nakash, recordman du monde de 200 mètres brasse et son divertissement préféré. À égalité avec le boxeur français Victor Pérez, plus jeune champion du monde des poids mouches de l'histoire, celui que tout le monde ici connaît sous le nom de Young Pérez, ou encore de Yonki. Alfred s'étire lentement de sa paillasse, enfile son slip de bain et son pyjama sous l'œil goguenard de Müller et de ses deux acolytes.
« Mets ça sur tes épaules, il ne fait pas chaud dehors !» lui dit-il en tendant une couverture.
Alfred n'aime pas ce sourire, chatte-mite qui respire le mépris. Comme la semaine dernière, il se retrouve debout, grelottant face au bassin dont l'eau marronnasse est tapissée d'algues vertes. Ce bassin est l'un des trois réservoirs d'environ 15 mètres de long sur 6 de large, dispersés dans le camp pour lutter contre les incendies. Le froid lui glace les os, l'envahit, tout comme la colère d'être là, simple marionnette de ses tortionnaires, jouet pathétique d'officiers aux uniformes impeccables. L'un d'eux tient un chronomètre, l'autre une caméra. L'Obersturmführer Schwartz, le redouté commandant d'Auschwitz III, se frotte les mains de satisfaction. « Approchez, mesdames, messieurs, le spectacle va commencer. »« Cette fois, mon petit Alfred, tu vas tout donner. 10 longueurs de papillon. Si tu descends sous la barre de ton dernier temps, tu auras droit à un morceau de viande. » Sinon, on te réservera une autre de nos spécialités. Surprise, mon petit Alfred, surprise.
Alfred connaît la sanction. La fin du confort de l'infirmerie, le retour au baraquement, au noir, à l'entassement, aux soupes infâmes, à ces cris insupportables qui déchirent la nuit et transpercent les murs.
Tu es prêt, champion ?
Sauver sa peau. Pensez uniquement à soi, pas à eux. Ils n'existent pas. Tu vas nager, Alfred, en faisant le vide complet comme tu sais le faire, en tirant à fond sur tes bras, la gueule ouverte. Un coup de feu. Le voilà déjà la tête au-dessus de l'eau, soulevant des masses végétales immondes. Il entend des rires qui se liquéfient dans ses oreilles. Il dresse plus haut encore ses épaules dans l'air glacé. Il casse son bassin à chaque mouvement, gagnant vitesse à chaque virage. « Je nage, bon Dieu, je nage bien et je les emmerde. »«
Alors, cher Alfred, quelle impression ?»
hurle le général. Il ne répond pas, attend, les mains glacées posées sur le béton. Il les voit qui se concertent, sourit toujours, encore et encore.
« Même temps, mon ami !» Il va falloir une deuxième épreuve pour se décider.
Dans l'humiliation, leur imagination est sans limite. Un officier sort un couteau de son fourreau, le tend vers le ciel, hilar.
Ce sera l'épreuve du poignard, Alfred. Rejoins-nous.
Alfred sort de l'eau, le corps transi, les bras croisés sur sa poitrine. Il s'approche de ses bourreaux.
Alors voilà. Exulte Schwartz. Nous allons lancer ce poignard au milieu du bassin. La fosse est profonde, mais nous connaissons tes talents. Le jeu consiste à le retrouver et à le remonter dans ta bouche. Le couteau entre les dents. Tu as compris, Alfred. Quelle belle épreuve! Comme un toutou à son maître, tu desserreras la mâchoire et le déposeras à nos pieds. Du moins, nous l'espérons, petite canaille.
Alfred évalue la profondeur du bassin à 6 mètres au moins. Cela ne lui fait pas peur. Il a les poumons pour ça. Ce qui l'inquiète, c'est cette eau opaque, pâteuse, qui empêche toute observation. Autant rechercher une aiguille dans une botte de foin. Il n'a pas d'autre choix que de leur offrir ce plaisir sadique. Il est comme tous les détenus du camp, à leur merci. Esclave de leur volonté destructrice. Et encore, il a la chance d'avoir des titres, des médailles, une reconnaissance internationale qui le rend moins transparent, moins vulnérable. à lui d'être à la hauteur de son statut de privilégié. L'épreuve du couteau entre les dents, dans la mélasse et une eau à 10 degrés. Lorsque l'officier a lancé le poignard, il a tenté de suivre sa trajectoire et d'identifier la zone du point d'impact, légèrement sur sa gauche, il lui semble, aux 2/3 de la largeur du bassin. Il regarde le général comme pour lui demander s'il peut y aller. D'un geste ridicule, une manière de révérence, il l'invite à se jeter à l'eau. Il plonge aussitôt, presque en surface, et se positionne là où il pense que le couteau a coulé. À son tour, il s'enfonce dans cet abîme, à la verticale. Il descend dans l'inconnu. De longues secondes. Interminables. Jusqu'au choc de ses paumes sur le sol dur et visqueux. Il relève la tête, ne voit pas à plus d'un mètre. Il se met à palper la surface, bute sur un amas de briques, identifie ce qui lui semble être une truelle, tâtonne le plus méthodiquement possible, en avant, en arrière, à droite, à gauche, tout en retenant sa respiration. Où est ce couteau, bordel? Ils doivent bien rigoler là-haut. Peut-être me pense-t-il déjà inconscient ou à moitié mort. Il brasse maintenant à l'aveugle des gestes de plus en plus amples et sur l'extrémité d'un doigt, il sent enfin une pointe le piquer. Il allonge le bras et s'empare de l'objet. Le couteau, sa lame d'au moins 20 cm. Ils vont l'avoir, leur image du bol chaud, le couteau entre les dents. Peut-être même, avec un peu de chance, qu'il l'aura, comme sur les affiches, du sang qui coule sur les lèvres. Il donne l'impulsion la plus forte qui soit pour remonter et surgit, comme un requin enragé, de la surface de l'eau. Le photographe nazi le mitraille de flash. Le général sautille comme un enfant en l'applaudissant à tout rompre. Il crache l'arme blanche. Il n'a pas saigné. Un soldat le hisse sur le sol. Il se redresse, titubant. Vidé. Tandis qu'il reprend ses esprits, il les voit s'éloigner et s'engouffrer dans leur Mercedes rutilante. Pour eux, le spectacle est fini. En démarrant, l'Obersturmführer baisse la vitre et lui lance « Je te félicite, Nakash. Ce soir, tu auras droit à des petites boulettes dans ton potage. » Et dans un éclat de rire, il ajoute « Profites-en. La semaine prochaine, ce ne sera pas la même histoire. » Alfred s'enroule dans une couverture, incapable d'une pensée, comme étranger à tout ce qui s'est passé. Il lui faut de longues minutes avant de se mettre en mouvement. Lentement, il longe les sinistres baraquements et regagne l'infirmerie. Autour de lui, un silence de mort.